À 17h30, Lee remonta à pied depuis l'arrêt de bus, faisant rebondir contre sa cuisse sa gamelle noire d'ouvrier. Il monta les marches en oubliant la foireuse. La planche bougea, Lee chancela, lâcha sa gamelle, se pencha pour la ramasser. « Voilà qui va améliorer son humeur », ai-je pensé. Il est entré. Je l'ai regardé traverser la salle de séjour et poser sa gamelle sur la paillasse de la cuisine. En se retournant, il a vu la chaise haute. Il connaissait à l'évidence le modus operandi de sa mère, car il a aussitôt ouvert le réfrigérateur rouillé. Il était encore occupé à en scruter l'intérieur quand Marina est sortie de la chambre du bébé. Elle avait un linge sur l'épaule et mes jumelles étaient assez puissantes pour me permettre de voir qu'il y avait un peu de vomi dessus. Elle lui adressa la parole en souriant et il se tourna vers elle. Lee Oswald avait ce genre de peau blanche qui est la malédiction de tous ceux qui rougissent facilement. Et à cet instant, son visage menaçant était écarlate, jusqu'à la limite de sa calvitie précoce. Il se mit à l'invectiver en désignant du doigt le réfrigérateur ouvert qui exhalait de la vapeur. Marina se détourna pour retourner dans la chambre de June. Il l'attrapa par l'épaule, la retourna brutalement et se mit à la secouer. La tête de Marina oscilla d'avant en arrière. Je n'avais pas envie de regarder ça, et rien ne m'obligeait à le faire. Ça n'ajouterait rien à ce que j'avais besoin de savoir. C'était un cogneur, on le savait. Mais elle lui survivrait. John Fitzgerald Kennedy ne pourrait pas en dire autant, ni l'agent de police Tippit. Donc non, je n'avais pas besoin de voir ça. Mais parfois, il arrive qu'on ne puisse pas détourner le regard. Ils se sont bouffés le nez à tour de rôle. Marina essayant sans aucun doute d'expliquer qu'elle ne savait absolument pas comment Marguerite les avait trouvés, et qu'elle n'avait pas pu empêcher Mamochka d'entrer dans la maison. Et bien sûr, Lee a fini par lui coller son poing dans la figure, parce qu'il ne pouvait pas le foutre dans la gueule de sa mère. Même si elle avait été là, il aurait été incapable de lever la main sur elle. Marina poussa un cri. Il la lâcha. Elle lui parla alors avec passion, main tendue vers lui. Il tenta de lui en choper une et elle se dégagea. Puis elle leva ses deux mains vers le plafond, les laissa retomber et sortit par la porte d'entrée. Lee commença à la suivre, puis se ravisa. Les deux frères avaient installé deux vieilles chaises longues miteuses sous le porche et Marina se laissa choir dans l'une. Elle avait une estafilade au-dessous de l'œil gauche et sa joue commençait déjà à enfler. Elle regarda dans la rue en direction de la maison d'en face. Les lumières de mon séjour étaient éteintes, et je savais qu'elle ne pouvait pas me voir. Mais une frayeur coupable m'a transpercé. Je me suis appliqué à rester immobile, les jumelles figées sur mon visage. Lee s'est assis à la table de la cuisine et a posé son front dans les paumes de ses mains. Il est resté un moment dans cette position, puis, entendant un bruit, s'est levé pour aller dans la plus petite des deux chambres. Il est ressorti avec June dans les bras et s'est mis à arpenter la salle de séjour en lui frottant le dos pour la calmer. Marina est rentrée. June l'a vue et a tendu ses bras potelés vers elle. Marina s'est approchée et Lee lui a remis le bébé. Puis, brusquement, avant qu'elle ne s'éloigne, il l'a serrée contre lui. Elle est restée un moment silencieuse dans le cercle de ses bras, puis a changé le bébé de côté pour pouvoir l'étreindre, elle aussi, d'un bras. Il avait la bouche enfouie dans ses cheveux, et j'étais pratiquement sûr de savoir ce qu'il lui disait. Les mots russes pour « je suis désolé ». Je ne doutais pas qu'il l'était. Il serait désolé la prochaine fois aussi, et la fois d'après. Marina a ramené June dans l'ancienne chambre de Rosette. Lee est resté un moment debout où il était, puis il est allé ouvrir le frigo, en a sorti quelque chose et s'est mis à manger. Tard, le lendemain soir, Lee et Marina étaient attablés pour le dîner. June, allongée sur le plancher du salon, gigotait sur une couverture quand Marguerite s'amena dans Mercedes Street, remontant d'un pas affairé depuis l'arrêt de bus de Winscott Road. Ce soir-là, Elle portait un pantalon bleu qui ne la flattait guère, compte tenu du volume généreux de son cul. Elle trimbalait un grand sac en tissu. On voyait dépasser par l'ouverture le toit en plastique rouge d'une maison de poupée. Elle monta les marches du porche, en évitant habilement la foireuse, une fois de plus, et entra sans frapper. J'ai résisté à la tentation d'installer mon micro directionnel. C'était encore une autre scène à laquelle je n'avais pas besoin d'assister et perdu la bataille. Il n'y a rien de plus fascinant qu'une dispute familiale, comme l'a dit, je crois, Léon Tolstoï. Ou peut-être que c'était Jonathan Franzen. Le temps que je le branche et l'oriente par ma fenêtre ouverte vers la fenêtre ouverte d'en face, l'engueulade allait bon train.
Voulu que tu saches où on crèchait, je te l'aurais dit, nom de Dieu. Madame l'a dit, c'est une bonne fille,
déclara placidement Marguerite. La rage de Lee glissait sur elle comme l'eau sur les plumes d'un canard. Elle sortait de son sac et distribuait à la vitesse d'un croupier de blackjack de la vaisselle dépareillée sur la paillasse de la cuisine. Marina la contemplait avec une totale stupeur. La maison de poupée était posée sur le plancher à côté de la couverture du bébé. June tricotait des gambettes et l'ignorait. Bien sûr qu'elle l'ignorait. Qu'est-ce qu'un bébé de 4 mois a à fiche d'une maison de poupée ?
Ma, il faut que tu nous laisses tranquilles. Il faut que t'arrêtes de nous apporter des choses. Je suis capable de m'occuper de ma famille.
Marina rajouta son grain de sel.
Mamochka, lis dire non.
Marguerite rit joyeusement.
Lui dire non. Mon chou, lui dire toujours non. Ce petit bonhomme-là a fait ça toute sa vie et ça ne veut rien dire du tout. Ma, veille sur lui.
Elle lui pinça la joue, comme une mère pincerait la joue d'un enfant de 6 ans qui aurait fait le vilain, mais qui serait quand même tellement mignon. Si Marina s'y était seulement essayée, je suis sûr que Lee lui en aurait retourné une magistrale. Convergeant vers la maison, les petites sauteuses à la corne se sont plantées sur le simulacre de pelouse pelée pour assister à la scène avec une attention digne des spectateurs du Globe, debout au parterre, devant l'ultime livraison d'une pièce de Shakespeare. Sauf que dans la comédie que nous regardions, c'était la mégère qui allait avoir le dessus.
Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour dîner, mon chou ? Est-ce que c'était bon ? C'est du ragoût, Jarko. Grégory, un type qu'on connaît, nous a fait passer des coupons pour le ShopRite.
Lee continue à mastiquer. Marguerite attendait.
Tu en veux un peu, ma ? Jarko, beaucoup bon, mamochka.
Dit Marina avec un sourire plein d'espoir.
Non, je pourrais jamais manger une chose pareille,
répliqua Marguerite.
Bon Dieu, ma, tu sais même pas ce que c'est.
Il aurait aussi bien pu parler dans le vide.
Ça me barbouillerait l'estomac. Et puis, je ne tiens pas à prendre un bus de ville après 8 heures du soir. Il y a trop d'ivrognes passé 8 heures. Lis, mon chou, il faut que tu répares cette marche avant que quelqu'un se casse une jambe.
Il marmonna quelque chose, mais l'attention de Marguerite s'était déportée ailleurs. Elle fondit tel un faucon sur un mulot et s'empara de June. Dans mes jumelles, l'expression de surprise du bébé était sans équivoque.
Comment va ma petite chérie ce soir ? Comment va mon trésor ? Comment va ma petite Divotchka ?
Morte de peur, la petite Divotchka se mit à hurler à plein poumon. Lee fit le geste de prendre le bébé. Les lèvres rouges de Marguerite s'écartèrent, laissant voir ses dents. Ça aurait pu être un sourire, mais vu seulement par les yeux d'un être charitable. Pour moi, ça ressemblait plus à un rictus diabolique. Pour son fils aussi, sans doute, parce qu'il recula. Marina se mordait les lèvres, les yeux écarquillés d'effroi. Marguerite allait et venait sur le tapis vert et limé, ignorant les vagissements de plus en plus désespérés de June, tout comme elle avait ignoré la colère de Lee. Se repaissait-elle effectivement de ses cris ? Ça m'en avait tout l'air. Au bout d'un moment, Marina n'y tint plus. Elle se leva et s'avança vers Marguerite qui partit loin d'elle, au pas de charge, tenant le bébé contre ses seins. Même depuis l'autre côté de la rue, j'imaginais fort bien le bruit de ses grosses chaussures blanches d'infirmière. Clop, clump, clop. Marina lui emboîta le pas. Marguerite, sentant peut-être que le message était passé, lui rendit finalement le bébé. Elle montra Lee du doigt, puis s'adressa à Marina de sa voix tonitruante d'instructeur militaire.
« Il avait grossi quand vous étiez chez moi, parce que je lui préparais tous les plats qu'il aime. Mais il est encore trop maigre, nom d'un chien. »
Marina, ses beaux yeux écarquillés, la regardait par-dessus la tête du bébé. Marguerite leva les yeux vers le ciel, en signe d'impatience ou carrément de dégoût, puis colla son visage contre celui de Marina. La lampe penchée de Pise était allumée et la lumière ondoyait sur les verres de ses lunettes papillons.
« Prépare-lui des plats qu'il mangera. Pas de crème aigre, pas de yogourt. Il n'a que la peau sur les os. »«
Peau sur des os ?»
répéta Marina d'un ton dubitatif. En sûreté dans les bras de sa mère, June se remettait lentement de ses sanglots et en était maintenant à des hoquets larmoyants.
« Oui !»
s'exclama Marguerite. Puis elle pivota comme une toupie vers Lee.
« Et toi, répare cette marche »
Là-dessus, elle s'en alla, ne s'arrêtant que pour claquer un gros béco au passage sur la tête de sa petite fille. Et, rajeunie, elle s'en retourna vers l'arrêt de bus en souriant. Le lendemain matin, j'étais debout à 6 heures. Sans même y penser, je suis allé au rideau tiré pour lorgner par la fente. Espionner la maison d'en face était devenu une habitude. Marina, assise dans l'une des chaises longues, fumait une cigarette. Elle portait un pyjama de rayon rose beaucoup trop grand pour elle. Elle avait un nouvel œil au beurre noir et des taches de sang sur sa veste de pyjama. Elle fumait lentement, inhalant profondément, le regard perdu dans le vide. Au bout d'un moment, elle retourna à l'intérieur préparer le petit déjeuner. Aussitôt après, Lee sortit de la chambre pour s'attabler. Il lisait un livre et ne l'a pas regardé.
Grégory, un type qu'on connaît, nous a fait passer des coupons pour le ShopRite,
avait dit Lee à sa mère. Peut-être pour expliquer la viande dans le ragoût, peut-être juste pour l'informer que Marina et lui n'étaient pas seuls et sans amis à Fort Worth. C'était apparemment passé au-dessus de la tête de Mamochka, mais ça n'était pas passé au-dessus de la mienne. Peter Gregory était le premier maillon de la chaîne qui mènerait George de Morenchild à Mercedes Street. Comme Morenchild, Gregory était un expatrié russe dans le business du pétrole. Il était originaire de Sibérie et donnait des cours de russe un soir par semaine à la bibliothèque de Fort Worth. L'ayant appris, Lee s'était renseigné pour savoir s'il ne pourrait pas lui trouver du travail comme traducteur. Grégory lui avait fait passer un test et avait trouvé son russe passable. Mais ce qui intéressait vraiment Grégory, ce qui intéressait tous les expats, Lee avait dû le percevoir, c'était l'ex-Marina Proussakova, la jeune fille de Minsk qui n'avait réussi à échapper aux griffes de l'ours russe que pour tomber dans celle d'un butor d'Américain. Lee n'avait pas décroché le job. À la place, Grégory avait embauché Marina pour donner des leçons de russe à son fils Paul. Cet argent, Lee Oswald en avait cruellement besoin. Mais ce job, c'était un autre sujet de rancœur pour Lee. Son épouse donnait des cours particuliers à un gosse de riche 2 fois par semaine, alors que lui était condamné à assembler des portes moustiquaires. Le matin où j'ai observé Marina en train de fumer sous le porche, Paul Grégory, un beau gosse, à peu près de son âge, se pointa dans une buick flambant neuve. Il frappa, et Marina, elle m'a fait penser à Bobby Jill tant elle s'était outrageusement maquillée, lui ouvrit. Que ce soit par égard pour la jalousie de Lee où, conformément aux règles de bienséance inculquées dans sa Russie natale, elle lui donna sa leçon sur le porche. Le tout dura 1 heure et demie. June était allongée entre eux sur sa couverture, et quand elle pleurait, tous deux se relayaient pour la tenir. C'était une petite scène charmante, quoique je doute que Mr. Oswald aurait eu la même impression. Vers midi, le père de Paul se rangea derrière la Buick. Il y avait 2 hommes et 2 femmes avec lui. Ils apportaient des provisions. Grégory aîné donna l'accolade à son fils, puis embrassa Marina sur la joue, celle qui n'était pas enflée. S'ensuivit une conversation animée en russe. Le jeune Grégory était largué, mais Marina avait repris pied. Son visage était comme illuminé au néon. Elle les invita à entrer. Bientôt, tous furent assis dans le séjour à boire du thé glacé et à bavarder. Les mains de Marina voltigeaient comme des oiseaux excités. June passait de main en main et de giron en giron. J'étais fasciné. La communauté russe émigrée avait trouvé la femme-enfant qui allait devenir son égérie. Comment aurait-il pu en être autrement? Elle était jeune, elle était étrangère en terre étrangère, elle était belle. Bien sûr, la belle se trouvait être mariée avec la bête. Un jeune Américain aigri qui la frappait, regrettable, et croyait passionnément, bien pire, en un système que ces gens d'une classe sociale supérieure avaient rejeté avec tout autant de passion. Pourtant, Lee acceptait leurs provisions, ne cédant qu'occasionnellement à ses sautes d'humeur. Et lorsqu'ils arrivèrent avec des meubles, un nouveau lit et un berceau rose vif pour le bébé, il les accepta également. Il espérait que les Russes le sortiraient du trou dans lequel il s'était mis. Mais il ne les aimait pas. Et quand vint pour lui le temps de déménager toute sa petite famille à Dallas en novembre 62, il devait savoir qu'il lui rendait cordialement l'appareil. Pourquoi l'aurait-il aimé, devait-il se dire. Il était idéologiquement pur. Eux étaient des lâches qui avaient abandonné la mère Russie quand elle était à genoux en 43, qui avaient léché les bottes des Allemands, puis fui aux États-Unis une fois la guerre finie pour y adopter rapidement l'American Way of Life. Laquelle signifiait pour Oswald belligérance, oppression des minorités et crypto-fascisme exploiteur des travailleurs. Tout cela, je le savais pour partie grâce aux notes de Hall. Pour la majeure partie, je l'ai vu se jouer sur la scène dressée devant moi de l'autre côté de la rue. Et déduit de la seule conversation importante que capta et enregistra ma lampe trafiquée.